Bonjour à tous et merci d'écouter RFI. 11h30 en temps universel, il est midi et demi ici à Paris.
RFI Midi, Anne Contner.
2 heures ensemble sur tous les continents, reportages et analyses pour faire le tour de l'actualité dans le monde. Nous irons aux États-Unis où la future administration Trump prend forme, tout à fait dans la ligne de ce qu'il avait annoncé. Ce sont ses proches, les artisans de sa victoire qui sont récompensés. Le milliardaire Elon Musk et un autre homme d'affaires, le républicain Vivek Ramaswamy, chargé d'un département sur l'efficacité gouvernementale, mais hors du cadre du gouvernement. Justement, ça c'est pour le démantèlement d'un certain nombre de services fédéraux voulus par Donald Trump, et tant pis pour les conflits d'intérêts. Et en ce qui concerne la politique étrangère, Donald Trump a choisi comme ambassadeur en Israël une figure du mouvement évangélique qui considère qu'il n'y a pas de Palestiniens. Message sans ambiguïté donc au gouvernement de Benjamin Netanyahou. D'autant que le futur envoyé spécial pour le Proche-Orient, s'il est confirmé, est sur la même ligne politique. On parlera de ces nominations avec notre invité dans 3 quarts d'heure. C'est encore un peu plus flou en revanche sur la politique à l'égard de l'Ukraine, mais l'administration sortante préfère prendre les devants. Anthony Blinken est au siège de l'OTAN ce matin et promet de tout faire pour consolider le soutien américain avant la prise de pouvoir de Donald Trump en janvier prochain, vous l'entendrez. Donald Trump sorte d'inspiration pour plusieurs dirigeants qui rechignent à faire des efforts à la COP. Le grand rendez-vous sur le climat se poursuit à Bakou et nous appellerons notre envoyé spécial tout à l'heure. Nous parlerons aussi dans RFI Midi de ces nouvelles violences qui secouent la capitale haïtienne. Coupée du monde depuis que les États-Unis ont suspendu leur vol de et vers Port-au-Prince. Nouvelle démonstration de force des gangs que nous analyserons après le journal de 13h, temps universel. Voilà, vous avez le programme. Bienvenue.
RFI Midi, l'Europe à midi.
Nous allons beaucoup parler de l'Ukraine durant cette première demi-heure, des conséquences de la guerre pour les pays qui la font et pour ses partenaires, des efforts des États-Unis pour rassurer avant le retour au pouvoir de Donald Trump. Le secrétaire d'État américain est à Bruxelles aujourd'hui pour y rencontrer le patron de l'OTAN. Et tout à l'heure, Anthony Blinken a promis que l'administration Biden allait continuer à consolider ce qu'elle fait pour l'Ukraine. Écoutez.
Nous avons eu aujourd'hui une discussion très productive sur le soutien que nous apportons à l'Ukraine face à l'agression russe en cours, ainsi que sur ce nouvel élément, les forces nord-coréennes injectées dans le conflit et maintenant littéralement dans le combat. Cela exige une réponse ferme et il y en aura une.
Anthony Blinken qui a aussi encouragé les pays de l'OTAN à investir davantage dans leur défense. La Russie n'a pas gagné, dit le secrétaire d'État américain. La Russie n'a pas gagné, mais l'armée ukrainienne souffre sur le front de l'Est et les bombardements quotidiens éprouvent considérablement les civils dans l'ensemble du pays. La nuit dernière, les sirènes et les explosions ont encore réveillé les Ukrainiens de la capitale, où l'on retrouve notre correspondante Emmanuelle Chaz.
Kiev et le reste du pays ont été attaqués avec au moins 6 missiles aériens et balistiques, dont des missiles Iskander, ainsi qu'avec 90 drones, rapporte la défense ukrainienne. À Kiev, un homme a été blessé et un entrepôt a pris feu dans la banlieue de la capitale. Le maire de la ville, Vitali Klitschko, a averti que des coupures de courant pourraient être mises en place de façon préventive en raison de ces frappes. Le système énergétique du pays a été lourdement endommagé par des frappes russes qui tentent de rendre l'Ukraine tout simplement invivable pour sa population. Et depuis 2 mois, en plus de son agression terrestre, la Russie attaque l'Ukraine quotidiennement par vagues de drones kamikazes, Moscou utilisant ces attaques pour épuiser la défense antiaérienne ukrainienne et ensuite frapper, et c'est un grand sujet d'inquiétude en Ukraine, le pays et la capitale à l'aide de missiles qui, eux, sont plus difficiles à arrêter et aussi plus destructeurs. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Multiplication des attaques russes et la police moldave annonce qu'un drone russe s'est écrasé sur son territoire sans qu'il y ait de risque pour la population. De son côté, l'Ukraine revendique l'assassinat d'un officier russe en Crimée, annexée il y a 10 ans par Moscou et la guerre. Elle se fait aussi sentir en Russie. Même si l'économie résiste toujours aux sanctions internationales, de plus en plus de fragilités apparaissent. Les nouveaux chiffres attendus aujourd'hui devraient confirmer que les dépenses de guerre dopent la croissance, mais confirmer aussi que l'inflation est toujours très forte, plus de 8%. Et cela se sent au quotidien. Le lait, le beurre notamment, coûtent de plus en plus cher à Anissa El-Jabri.
Des images tremblantes sur une vidéosurveillance de supermarché. Un homme cagoulé en noir qui surgit, pas pour braquer l'argent dans la caisse, mais bien pour embarquer du beurre, 20 kilos, s'était à Yekaterinbourg le 5 novembre dernier. Le montant du butin, 100 000 roubles, 1 000 euros, en dit long sur l'explosion des prix du beurre. Plus de 25% en moyenne en un an. C'est très au-dessus de l'inflation du secteur alimentaire estimée à 9%. La première chaîne de télévision russe, elle, en est à faire des reportages sur les bienfaits de la margarine, et le ministère de l'Agriculture lui multiplie les réunions, annonce une future stabilisation des prix grâce aux importations notamment de Turquie. Commentaire sceptique d'une économiste, on ne peut pas se battre sur le champ de bataille et combattre l'inflation en même temps. Le sujet est particulièrement sensible pour un pouvoir qui a toujours promis à sa population que sa guerre en Ukraine n'aurait aucun impact sur la vie quotidienne. En attendant, d'autres vols moins spectaculaires mais visiblement bien trop réguliers ont contraint certains supermarchés à prendre des mesures. Même dans la capitale russe, le beurre peut parfois être placé dans un frigo sous clé avec les produits comme le caviar. Anicel Jabri, Moscou, RFI.
Et la guerre en Ukraine occupe aussi une place très importante dans la politique des alliés de Kiev. Au sein de l'Union européenne, on en a déjà parlé ici, car les 27 sont divisés sur le soutien à apporter, et à l'intérieur même des pays, comme en Allemagne. D'ailleurs, la crise politique en cours risque d'avoir des conséquences sur cette aide à l'Ukraine. Nathalie Versieux, vous êtes notre correspondante à Berlin. Nathalie, la majorité des décisions étant adoptées à la majorité des deux tiers au Parlement, la possible montée en puissance de l'extrême droite AFD et des populistes de gauche, de BSV, après les élections anticipées, pourrait en fait modifier la ligne de Berlin vis-à-vis de l'Ukraine.
Oui, rappelez-vous, c'était au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le chancelier Scholz annonçait un plan d'investissement massif dans la défense, 100 milliards d'euros du jamais vu en Allemagne. L'adoption de ce plan financé à crédit a fait sauter le sacro-saint frein à l'endettement inscrit dans la Constitution, et cela n'a été possible que parce que le gouvernement Scholz a obtenu le soutien des députés conservateurs dans l'opposition et donc la majorité des deux tiers. En 2027, ces fonds seront épuisés. Adopter un nouveau plan de ce type pourrait être impossible si l'AFD et BSW détiennent plus du tiers des mandats au Bundestag. C'est pourquoi de plus en plus de voix demandent de lever le frein à l'endettement pour les dépenses militaires avant les élections, sans quoi la question de savoir si la Bundeswehr a suffisamment de ressources devra être quasiment négociée directement avec Poutine, ironise le vert Robert Habeck. L'AFD comme le BSW sont considérés comme proche de Moscou.
C'est un peu un appel au secours. Est-ce qu'il y a d'autres lois que la majorité veut faire adopter en urgence avant les prochaines élections prévues le 23 février ?
Mais la liste est même longue. Sécuriser la Constitution, notamment l'élection des juges de la Cour constitutionnelle qui se fait à la majorité des deux tiers. Les extrêmes pourraient bloquer le vote si les candidats présentés ne leur conviennent pas. Et puis Olaf Scholz voudrait faire adopter quelques textes déjà préparés comme la stabilisation des retraites et une réforme fiscale avantageuse pour les salariés.
Nathalie Versieux, on va écouter maintenant un reportage que vous avez réalisé sur l'une des raisons de cette crise politique en Allemagne qu'on évoquait à l'instant. Ce sont les difficultés de l'industrie automobile, très importantes. Dans un contexte économique morose, les grands noms du secteur annoncent tous de mauvais résultats et même parfois des fermetures d'usines ou alors des licenciements. Nathalie, vous vous êtes rendue à Wolfsburg où se trouve le siège du groupe Volkswagen. Et là, c'est toute une région qui attend avec anxiété de connaître les prochaines décisions de l'entreprise.
Il est presque 14h à Wolfsburg, l'heure du changement d'équipe. Des groupes d'hommes et de femmes sortent visage fermé de ce qui ressemble à une bouche de métro. Un écriteau fixé en haut des escaliers indique « Tor 17 », l'entrée 17 de l'usine, à 200 mètres de la gare et l'une des plus utilisées par les salariés. Samia vient de finir sa journée, fille d'immigrés tunisiens à la chaîne. Cet employé de bureau, doudoune rouge et visage avenant, a connu plus d'une crise chez Volkswagen.
Ich habe nicht so wie jetzt. Ist jetzt anders. Also kann ich jetzt auch Oui, mais ce n'était pas comme maintenant. Je ne peux pas vraiment dire pourquoi, mais vous voyez cette collègue, par exemple, je parlais avec elle tout à l'heure, et elle est là depuis 43 ans. Elle va à la retraite cette année. Elle disait qu'elle n'avait jamais vu ça. Bien sûr, il y a toujours des solutions. Mais là, ce sont vraiment des solutions violentes, des licenciements. Il faut voir, les gens ont peur, peur pour leur emploi, pour leur sécurité.
Samia s'inquiète notamment pour les salariés des usines d'ex-RDA du groupe des régions, où il sera plus difficile de retrouver un emploi. À Wolfsburg, chaque famille tremble depuis que le constructeur a annoncé début septembre vouloir résilier la garantie de l'emploi négociée avec les syndicats. Des dizaines de milliers de postes sont menacés. 3 usines pourraient fermer en Allemagne pour la première fois dans l'histoire du groupe. Devant la porte 17, l'inquiétude est palpable. Franck, la quarantaine, fils et petit-fils d'ouvriers de l'usine, s'apprête à prendre son poste.
Je travaille dans l'atelier des portes. On pose les câbles, la vitre, les isolants tout autour, le rétroviseur. Le rythme, c'est normalement une minute par geste, mais comme la production a diminué, on a baissé. On est maintenant à 2 minutes.
Les négociations sur l'avenir du groupe entre la direction et le puissant comité d'entreprise et le syndicat IG Metall reprendront le 21 novembre dans le stade Volkswagen de la ville, financé par le constructeur. Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
RFI, l'Europe à midi.
Direction le Royaume-Uni, où 2 responsables, l'un religieux, l'autre politique, estiment ce matin que d'autres membres de l'église anglicane pourraient devoir démissionner. C'est ce qu'a fait déjà hier le chef de l'église d'Angleterre, Justin Welby, conséquence de la publication d'un rapport accablant sur des agressions sexuelles commises par un avocat lié à l'institution et couvertes pendant des années par l'archevêque de Canterbury. Pour Rémi Bettemont, professeur d'histoire et de civilisation britannique à l'université Paris 8, il faudra faire le ménage, mais il prévient que cette affaire, c'est aussi un symbole de l'inaction structurelle des dirigeants de l'Église anglicane en ce qui concerne les violences sexuelles. Écoutez.
Il y a quand même un nombre significatif d'évêques et, je dirais, de figures qui, sans nécessairement être évêques, ont une position extrêmement haut placée dans l'Église, qui, voilà, où il y a visiblement de vieilles habitudes d'inaction, de considérer que ce sont des choses qui sont pas aussi importantes que d'autres et que donc auxquelles on va pas nécessairement donner la priorité. Que Welby démissionne, c'est un électrochoc. Enfin, j'espère. C'est aussi reconnaître que il est très très mal placé pour aller de nouveau à l'assaut de ce genre de problème et de faire le ménage, en particulier au sein de la Chambre des évêques. Clairement, il est mal placé pour le faire. Donc je pense que ça, c'est aussi la reconnaissance de ça.
Rémi Bettemont, professeur d'histoire et de civilisation britannique à l'université Paris 8, il répondait à Nicolas Roca. 12h43 à Paris, on vous emmène maintenant en Turquie, où journalistes et défenseurs des droits de l'homme s'inquiètent beaucoup pour leur avenir et pour leurs actions, car le pouvoir travaille en ce moment à une nouvelle loi, surnommée « loi sur les agents d'influence », que beaucoup voient comme un risque de criminalisation de leur travail, bref, comme un texte semblable à ceux adoptés déjà en Russie, en Géorgie ou encore en Hongrie. Reportage à Nandlauer.
Certains élus d'opposition n'hésitent pas à parler de la loi la plus dangereuse jamais rédigée en Turquie. Une loi qui élargit considérablement la définition de l'espionnage dans le code pénal turc. Portée par le Parti de la Justice et du Développement, l'AKP du président Erdogan, le texte prévoit 3 à 7 ans de prison pour ceux qui, je cite, « commettent un crime contre la sécurité de l'État ou ses intérêts politiques intérieurs ou extérieurs » conformément aux intérêts stratégiques ou aux instructions d'un État étranger ou d'une organisation étrangère. Fin de citation. L'article en question est conçu comme une circonstance aggravante. Une personne poursuivie pour n'importe quel crime pourra, si le parquet estime que l'auteur a agi pour le compte de l'étranger, être poursuivie également pour cette nouvelle définition très vague du crime d'espionnage. Journaliste, universitaire, militant des droits de l'homme, dans une société civile turque très éprouvée ces dernières années, années. Dans un pays où la liberté d'expression s'éteint de jour en jour, la nouvelle loi inquiète. Elle pourrait notamment s'abattre sur les rédactions de médias d'opposition ou indépendants. Sinan Tartanoğlu est responsable à Ankara du syndicat des journalistes de Turquie.
Jusqu'ici, pour accuser quelqu'un d'espionnage, il fallait qu'il y ait partage ou divulgation de documents ou d'informations relatifs à des secrets d'État. Il fallait donc une preuve concrète. Là, rien de tout ça. N'importe quel procureur pourra dire « Tu as écrit cet article pour nuire à l'État et à ses intérêts politiques intérieurs ou extérieurs, donc tu es un agent de l'étranger. » Et le journaliste n'aura aucun moyen de prouver que son article n'avait pas pour but de nuire à l'État.
Le texte inquiète aussi les défenseurs des droits humains au sein des ONG locales et internationales, à l'image de Human Rights Watch, dont Emma Sinclair Webb est la directrice en Turquie.
Les autorités semblent vouloir se doter de pouvoirs encore plus grands pour s'en prendre à des ONG, à des individus, à des articles qui les critiquent et qu'ils considèrent comme agissant contre leurs intérêts. Qu'est-ce qui empêchera un procureur de considérer qu'une ONG qui a publié un rapport sur des violations des droits de l'homme en Turquie a agi dans l'intérêt stratégique d'une organisation ou d'un État étranger? Ça peut sembler improbable et bizarre, mais la loi est écrite de telle façon qu'elle est très flexible et elle peut être utilisée pour cibler toute personne considérée comme un ennemi politique.
Selon ses détracteurs, tel est l'objectif du texte, délégitimer et criminaliser encore davantage le travail des journalistes et des défenseurs des droits. Dans les médias, la loi a été renommée « loi sur les agents d'influence », une expression fréquente chez le pouvoir et ses soutiens ces 10 dernières années. En mai dernier, Devlet Bahçeli, le dirigeant du Parti d'Action Nationaliste, MHP, allié du président Erdogan, s'en prenait en des termes clairs aux critiques du texte.
Ceux qui s'opposent à la nouvelle loi sur l'espionnage devraient être suivis de très près. L'heure est proche et inéluctable, où les soi-disant journalistes devront rendre des comptes.
Du côté des autorités, on peine à justifier l'extrême imprécision du texte. Le journaliste Sinan Tartanoğlu a assisté au débat en commission parlementaire.
Ce que nous disent les autorités, c'est que l'espionnage n'a plus la même forme qu'autrefois, que sa définition et ses méthodes ont changé, et qu'il faut donc adapter la législation. Mais pourquoi ça devrait dispenser la justice d'apporter des preuves? Cette loi est une arme très puissante. Le moindre tweet, le moindre article peut être pris pour cible. On risque de se retrouver demain face à des centaines d'actes d'accusation qui sont peut-être même déjà écrits.
Le surnom donné à la loi évoque chez ses opposants un parallèle avec des textes appliqués dans d'autres pays, notamment en Russie, où le statut d'agent de l'étranger s'impose à tout individu, entité juridique ou association qui reçoit un soutien ou tombe sous l'influence étrangère. Emma Sinclair Webb, directrice de Human Rights Watch.
Ce qui est intéressant, c'est que cette loi turque ne fonctionne pas comme celle d'autres pays, la Russie et la Géorgie par exemple, où les gens doivent s'enregistrer eux-mêmes comme agents de l'étranger. On ne vous demande pas de vous désigner comme agissant sous une influence étrangère. C'est la loi qui vous étiquette comme tel. C'est un procureur qui vient vous chercher et vous accuse de ça. Mais l'effet est le même, le dénigrement de la personne, en laissant entendre qu'elle agit pour des raisons néfastes pour le compte de puissances étrangères.
Cette défenseur des droits rappelle que la législation turque n'interdit pas à des médias ou à des ONG de recevoir des financements de l'étranger, même si les autorités ont pu qualifier de cinquième colonne ceux qui critiquent le pouvoir en percevant ces financements. Du moins, elle ne les interdit pas encore. Le 7 novembre, le vice-président du MHP, ultranationaliste, a déposé une proposition de loi réclamant la fermeture des radios et télévisions qui bénéficient de tels financements. Un endroit Ankara, RFI.
Reportage de notre correspondante en Turquie à réécouter ce soir dans l'émission Accent d'Europe à partir de 19h10, temps universel.
RFI Midi.
Un monde de tech.
On va parler de l'une des principales applications de messagerie au monde, WhatsApp, la quatrième la plus téléchargée l'an dernier, la plus utilisée en Afrique, où elle sert à 250 millions de personnes. Eh bien, WhatsApp veut mettre en place une nouvelle fonctionnalité pour lutter contre la désinformation. Grégory Genevrier, pour l'instant, c'est un test. Un système de recherche par image inversée disponible directement dans l'application.
Oui, WhatsApp veut permettre à tous ses utilisateurs de pouvoir vérifier l'authenticité des images qui circulent sur sa plateforme. Pour ça, l'application propriété du groupe Meta miserait sur la recherche par image inversée. Alors, on vous en parle souvent ici à RFI. La recherche par image inversée, c'est un moyen de trouver où et quand est-ce qu'une photo a circulé sur le le web. Au lieu de fournir du texte à un moteur de recherche, ce qu'on fait tous quand on tape quelque chose sur Google, eh bien là, on va lui fournir une image pour savoir si elle est déjà apparue en ligne. Cela permet de vérifier si une photo a été manipulée ou sortie de son contexte, par exemple. Mais attention, ce n'est pas un outil magique, ça ne marche pas forcément à tous les coups.
Et concrètement, comment est-ce que ça va fonctionner sur WhatsApp?
Alors, d'après les premières captures d'écran disponibles en ligne, il suffit de cliquer sur la photo qui nous intéresse. Ça peut être une image reçue par un contact ou trouvée dans un groupe. Ensuite, il faut sélectionner l'option « Rechercher sur le web » dans le menu déroulant, accessible via les trois petits points. L'outil fonctionne via l'interface de Google Images, c'est donc en quelque sorte un raccourci pour ne pas avoir à enregistrer l'image, ouvrir Google et lancer la recherche. Niveau confidentialité, WhatsApp assure que les images recherchées ne seront ni stockées ni analysées.
Et est-ce qu'on sait quand cette fonctionnalité devrait être mise en place?
Jusqu'ici, cet outil est réservé à un petit nombre de bêta-testeurs, des sortes de cobayes uniquement sur des appareils Android. Ils vont tester cette nouvelle fonctionnalité durant plusieurs semaines et faire de retour aux développeurs en vue de son amélioration. Si les résultats de cette première phase d'essai sont concluants, WhatsApp devrait rapidement l'intégrer dans l'application classique accessible à tous. Certaines sources bien informées parlent d'une mise en service possible d'ici à la fin de l'année. Actuellement, on n'a aucune information à propos des utilisateurs d'Apple et d'iOS.
Et alors, est-ce que c'est un moyen efficace de lutter contre la désinformation?
Eh bien, c'est difficile à dire. Si l'outil peut pousser certains utilisateurs à faire des recherches par image inversée, c'est une bonne nouvelle. Mais d'abord, les résultats ne sont pas toujours concluants, on l'a dit. Et puis, on ne peut pas savoir combien d'utilisateurs vont vraiment prendre le temps de s'en servir. D'une certaine manière, WhatsApp met la responsabilité de la vérification du côté des utilisateurs, ce qui ne doit pas lui faire oublier ses propres obligations en matière de lutte contre la désinformation et les contenus illégaux.
Parce que la désinformation, c'est un vrai problème aujourd'hui sur WhatsApp.
Oui, avec la multiplication des groupes, l'application de messagerie est aujourd'hui utilisée comme un véritable réseau social. De nombreuses campagnes de désinformation débutent sur WhatsApp, notamment en Afrique, parfois en langue locale. Et ce qui est difficile pour nous, fact-checkers, c'est que le fonctionnement de la plateforme est relativement fermé. On ne peut pas voir ce qui circule sur tous les groupes, ni à quel point est-ce qu'une fausse information circule.
Grégory Genevrier, de la cellule InfoVérif, donc de RFI. Merci. Notre rencontre avec une personnalité du monde de la culture à présent. Un grand cinéaste français, Claude Lelouch, signe son 51e long métrage. Il s'appelle « Finalement » et le réalisateur en parle à Elisabeth Le Quéré. Claude Lelouch, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Finalement, c'est l'histoire d'un homme qui se fait la belle. C'est un avocat parisien renommé. Il quitte femme et enfant pour partir sur les routes de France. Il s'appelle Lino. Il est joué par Cadmerade.
Oui, oui, c'est un aventurier d'aujourd'hui. C'est un homme qui a envie de retrouver sa liberté. Il a envie de s'offrir une récréation avec lui-même, il a envie de se retrouver lui-même. Et il part au hasard. Il va rencontrer des personnes merveilleuses, des enfoirés, voilà. Et comme les personnes merveilleuses sont plus fortes que les enfoirés... Je pense qu'il va retrouver la lumière, voilà, qu'il avait perdue.
Il raconte des bobards, en fait. Il, oui. Raconte, il s'invente des fausses vies.
Oui, enfin, il c'est un grand avocat. C'est un des, il a fêté son 100e acquittement. Et quand il rencontre des gens et que les gens lui demandent qui il est, il se met dans la peau des personnages qu'il a défendus. Et ça lui permet, comme ça, de mesurer la tolérance des gens qu'il rencontre.
Pourquoi vous aimez tant filmer des menteurs?
Ben parce qu'ils nous font rêver. Ils nous font rêver, puis on ne meurt jamais d'une overdose de rêve. Et on a besoin, dans l'époque qu'on vit, de rêver un peu plus.
Finalement, l'argent n'avait pas d'importance. Finalement, le paradis, c'était l'enfance. Finalement.
Claude Lelouch, Cadmerade, c'est la première fois que vous tournez avec lui. Autour de lui, il y a plutôt les suspects habituels, hein, votre famille de cinéma. Elsa Zilberstein, Sandrine Bonner, Michel Bougenat, Françoise Fabian. Des acteurs fidèles avec qui vous avez déjà tourné.
J'aime être entouré par les gens qui ont du talent. Voilà, donc les gens qui ont du talent, je suis content de les revoir. Comme on est content de revoir des gens qu'on aime, voilà.
Claude Lelouch, finalement, c'est votre 51e film. Quand on regarde dans le rétroviseur, et je sais qu'une rétrospective de votre œuvre va avoir lieu bientôt à la Cinémathèque française, comment on se sent?
Écoutez, on se sent comme un enfant gâté. Moi, j'ai connu une époque où les gens pleuraient, maintenant ils pleurnichent. J'ai connu une époque où ils riaient, maintenant ils ricanent. Voilà. Donc j'apprécie chaque seconde qui passe.
Et quand on a une œuvre, une filmographie aussi impressionnante, comment on fait pour trouver encore l'inspiration ?
Moi, je travaille avec un immense scénariste qui s'appelle La Vie.
Est-ce que vous pouvez imaginer une vie sans cinéma ?
Je pense que j'aurais aimé faire de la peinture, mais j'aurais aimé aussi raconter des histoires. J'aurais pu, j'aurais bien aimé être le nègre de Victor Hugo.
Ou d'Alexandre Dumas.
D'Alexandre Dumas, voilà. Donc, si vous voulez, non, je pense que j'aurais aimé déjà raconter des histoires.
La Cinémathèque française, je le disais, va vous consacrer bientôt une rétrospective. Est-ce que vous avez grand plaisir à revoir vos films ?
Écoutez, oui, c'est comme si j'allais voir des membres de ma famille. Donc, si vous voulez, non, j'ai pris beaucoup de plaisir. Il faut jamais cracher dans la soupe. Jamais, jamais.
C'est un bon mot de la fin. Claude Lelouch, merci beaucoup.
Merci.
Claude Lelouch, le grand cinéaste français dont le 51e long métrage sort sur les écrans français cette semaine. Le film s'appelle Finalement et Claude Lelouch était au micro d'Elisabeth Le Quéré. Dans quelques minutes, un nouveau journal sur RFI, toute l'actualité internationale. Puis nous parlerons avec notre invité de ses nominations dans le camp Trump. Le président élu est en train de constituer sa future équipe avec certains noms qui surprennent, qui posent aussi un certain nombre de questions en matière de séparation des pouvoirs. Et puis à midi et demi, temps universel, Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sur.
Bonjour Anne.
Vous nous parlerez tout à l'heure
du Somaliland qui vote aujourd'hui pour sa présidentielle. Trois candidats sont en lice dans cette république autoproclamée du nord-est de la Somalie, qui espère obtenir la reconnaissance de son indépendance par la communauté internationale. Et puis au Sénégal, Ousmane Sonko demande finalement à ses militants de rester calmes et pacifiques. Avant-hier, il les avait appelés à se venger de ceux qui les agressent. Ses propos avaient provoqué une intense polémique en pleine campagne électorale.
À tout à l'heure Nicolas, sur midi et demi, temps universel. D'ici là, dans 4 minutes maintenant, il y aura un nouveau journal. Et d'ici là, je vous propose d'écouter un peu de musique. Celle du collectif électro-afro-funk anglais Ibibio Sound Machine, c'est à découvrir en ce moment dans la playlist RFI. Rising to my feet with my soul, and I know the man will never.
Jessie B, la lauréate du prix Découverte RFI 2023, sera en concert dans le cadre de sa tournée africaine en partenariat avec RFI et l'Institut français.
Retrouvez Jessie B le 13 novembre à Bukavu et les 15 et 17 à Goma.
Plus d'infos sur le site de l'Institut français de votre pays et sur la page du prix Découverte sur le site RFI Musique.